Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi. La semaine dernière, le réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice a plaidé pour la prise en compte des besoins de la police nationale dans le budget 2014. Dans la note des plaidoyers, la société civile recommande notamment qu'il soit réellement affecté à la réforme de la police les montants prévus dans les projets de loi des finances pour des dépenses non essentielles ou excessives. Afin de matérialiser la loi de programmation de la mise en œuvre de la réforme, les réseaux plaident aussi qu'il soit envisagé dès à présent la possibilité d'accroître la tranche de l'allocation prévue pour 2015. Comment commentez-vous cette actualité? Pour votre intervention en direct, rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net et appelez-nous au 081 890 6315. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Pierrot et Lamégi réalise cette émission. Paul Badianyam en assure la mise en onde. J.R. Lungembo la coordonne sous la supervision de Nicole Gaka. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Capi. C'est plutôt Jean-Claude Nsiala qui assure la mise en onde de cette émission. Nous avons dans ce studio Emmanuel Kabengele qui est le coordonnateur du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice RRCSSJ en sigle. Voilà, Emmanuel, bonjour.
Bonjour, Gérard.
Voilà, la première question, depuis 2005, le gouvernement de la RDC entreprend la réforme du secteur de sécurité en général et la police en particulier. La promulgation le 24 décembre dernier par le président de la République de la loi portant programmation de la mise en œuvre de cette réforme pour la période 2014 à 2017 devrait certes constituer un espoir de sécurité du peuple congolais. Mais malheureusement, le budget 2014 déclaré recevable au Parlement ne répond pas les besoins de la police nationale. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs la note de plaidoyer de la société civile.
Ouais.
Alors, comment expliquer ça? Qu'est-ce que vous avez constaté?
En fait, merci de la question et merci de l'invitation et nous saluons les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Depuis un certain temps, les organisations de la société civile se sont regroupées autour du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et justice pour plaider pour tout ce qui est aspect qui nous amène à ce qu'on arrive à une réforme essentiellement efficace. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a des avancées dans le processus de réforme, il y a des lois qui ont eu à être promulguées et pour ce qui concerne la réforme de la police pratiquement, vous venez de faire un inventaire déjà de certaines lois promulguées et la récente, c'est celle qui a été promulguée le 24 décembre 2013 portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période 2014 à 2017.
Et quand on parle de la programmation, concrètement, ça veut dire quoi? Parce que pour les commis des mortels.
Vous voyez déjà le mot programmation, ça voudrait dire déjà échelonner dans le temps les dépenses d'investissement et puis les dépenses d'administration pour ce qui concerne la réforme de la police nationale. Donc il y a un plan et ce plan-là, pour l'exécuter, on échelonne dans le temps le dépense. Et cet échelonnement dans le temps de dépense-là, c'est ce qu'on appelle au niveau de la loi de programmation.
Et en 2014, donc le budget 2014 ne répond pas cela.
En fait, textuellement, tel que prévu par la loi de programmation à son article 3, essaie de faire obligation aux lois de finances de prendre en compte le besoin en crédit budgétaire exprimé par cette loi. Et ce sont les lois de finances de la période 2014, 2015, 2016, 2017. Donc, ça voudrait dire que la loi de finances 2014 devrait suivre déjà le pas, déjà pour prendre en compte le besoin en crédit budgétaire qui sont déjà exprimés dans la loi de programmation pour cette période 2014. Et nous, lorsqu'il y a eu ce projet de budget, nous nous sommes réunis avec les amis pour pouvoir analyser de fond en comble ce projet de budget. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de fonds prévus pour la réforme de la police. Ça serait menti. Donc, il y a cette rubrique-là de fonds. Mais notre souci, en analysant le fonds, en analysant même la globalité de tout tout se font, on se rend beaucoup plus compte que le besoin réel exprimé par la loi de programmation ne ressorte pas clairement. Et il y a risque qu'on ne prenne pas en compte cette loi de programmation. Et notre note de plaidoyer, c'est juste un cri d'alarme, un son de cloche que nous essayons de lancer auprès des élus qui, en dernière analyse, vous devrez voter ce budget.
Parce qu'actuellement, le projet, disons la loi, est sous examen au niveau
de la commission Ecofin. Et nous avons eu à écrire notre note de plaidoyer auprès de députés qui travaillent au niveau de la commission avec quelques propositions.
On verra, disons, d'un moment à l'autre, quelques propositions. Alors, mais pour la société civile, la non prise en compte par le gouvernement des besoins de la police constitue une violation.
C'est une violation de la loi de programmation et c'est aussi un motif d'inquiétude par rapport à la poursuite normale du processus de réforme de la police. Vous savez que le chef de l'État a programmé sa priorité de priorité et pour nous, priorité de priorité, il faut que ça soit aussi conséquent au niveau du budget. Et notre...
Et ce qui veut dire que ça, c'est aussi en contradiction évidente à la volonté politique du chef de l'État.
Oui, c'est également un des aspects, c'est une contradiction vraiment évidente et pour nous, ça risque d'être une réforme théorique si jamais on ne prend pas en compte déjà le besoin en crédit budgétaire qui ressortent de cette loi de programmation.
Alors, la société civile que vous êtes, vous recommandez qu'il soit envisagé dès à présent la possibilité d'accroître la tranche de l'allocation prévue pour 2015 à la réforme de la police, voilà, de la tranche déficitaire de cette année. Est-ce possible? Parce que déjà là, pour 2014, ce n'est pas clairement défini et vous demandez à ce que l'excès puisse être reporté pour 2015. Voilà, comme vous l'avez dit, nous devons nous inscrire dans les temps, donc 2014 jusqu'en 2017 et ça risque d'être compliqué.
Bon, vous savez toujours qu'en proposant des suggestions, on prévoit les plans A et les plans B. Le plan A pour nous, c'est que tout le besoin crédit budgétaire ressorte et que soit pratiquement intégré dans la loi. Et si jamais on n'arrive pas à intégrer tout ce besoin en crédit budgétaire, l'écart négatif de besoins qui ne seront pas intégrés puisse être reporté pour la loi prochaine. C'est juste une suggestion qui va de la gestion normale de tout individu.
Voilà, on reviendra sur des propositions, mais on retient une chose, qu'actuellement, vous amenez les décideurs, les autorités à avoir cette culture de réalisation de leurs promesses, c'est-à-dire la promesse faite au niveau de la loi de programmation. Et il faudrait qu'on soit un peu regardant, qu'on puisse ne fût-ce que faire le premier pas, donner à la population, en respectant la loi de la programmation, ça serait une bonne chose et ça pourrait mettre le peuple en sécurité, parce qu'il en va aussi de leur sécurité par rapport à cette loi. Merci beaucoup Emmanuel, on va revenir à vous, le temps de passer de l'autre côté du standard pour ouvrir cette première série des auditeurs, la Guillois qui est à Kalemi, Galvani à Mbujimaï, Omar qui est à Kinshasa, 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
La Guillois, vous êtes à Kalemi au Katanga. Bonjour, la Guillois.
Oui, bonjour, monsieur Jérôme Ngembo. Bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Alors, comment commentez-vous cette actualité?
Merci, monsieur Jérôme. Et je remercie aussi sincèrement l'invité. Je pense qu'il a beaucoup parlé, mais nous, notre souci pour la loi de programmation et la réforme de la police. Nous, nous considérons que la sécurité, c'est le poumon de la paix, soit du développement d'un pays. On peut mener la réforme de la police. Et si cette police n'est pas bien traitée, et nous serons la population sera toujours victime de différents termes qu'on appelle communément macolo. Tantôt, la population se sent devant la police, et que vous allez voir, c'est comme si on est devant un ennemi au moment qui est la police. Il devait d'abord, première fois, collaborer avec la population, et c'est avec la population qu'on pourra mener une meilleure sécurité. Bon, si j'ai une préoccupation, parce que pour aller bien à la loi de programmation, il faut qu'on se demande et qu'on sache d'abord les erreurs, et commencer à corriger les erreurs passées. Et si on corrige les erreurs passées du budget de 2013, est-ce que réellement tous les policiers touchaient leurs soldes? Soit est-ce que tous les policiers touchaient leurs soldes à temps? Voilà, là, on saura maintenant comment, avec l'invité, est-ce que, on a déjà corrigé toutes les erreurs du passé, du budget de l'an passé. Et pour revenir aussi à ce dont l'invité a dit, que nous, lorsque nous sommes d'entrée de voir les agents de la police, vous allez voir un policier, sa tenue même n'est pas même propre, et même ses souliers, ça c'est aussi, on dit, vous allez voir, il vous dit, ne sont pas payés. Est-ce qu'avec l'invité, lui qui est notre invité, il peut voir avec le comportement dont les policiers sont tentés d'afficher avec son comportement, d'abord lui qui est dans le studio. Voilà, nous devons faire songer aussi à louer un budget très conséquent vis-à-vis des secteurs sécuritaires. Voilà, mais c'est ma contribution, M. Jérôme. Bonne continuité.
Merci beaucoup, la Guillois. Nous résumons en 3 points. La sécurité pour vous, c'est les poumons de la paix. Et on peut mener la réforme si cette réforme ne tient pas compte, en fait, des considérations ou des conditions sociales des policiers. Il n'y aura pas de sécurité des personnes et de leurs biens. Et vous demandez assez qu'on puisse avoir la culture des redditions des comptes. C'est vrai qu'en 2013, il y a eu une part à louer à la réforme. Et aujourd'hui, est-ce que cela a tenu compte de cela? Est-ce que cela a atteint, au fait, la destination? Il faudrait qu'on puisse évaluer. Alors, la plus grande question, est-ce qu'on est obligé de faire l'évaluation avant la promulgation de la loi sur la programmation? Voilà, ça c'est une question, je crois que notre invité pourrait revenir là-dessus. La Guillois, merci beaucoup d'avoir appelé de Kalemi au Katanga. Galvani, vous êtes en Boujimaï. Bonjour Galvani.
Oui, bonjour JR, bonjour à tous.
Galvani, vous avez la parole.
Merci pour la parole et bonjour aussi à l'invité. Personnellement, je soutiens aussi l'initiative menée par cette ONG ou les gens de la société civile, parce que vous savez que lorsqu'on veut une police républicaine et efficace et performante, on doit nécessairement la doter des moyens qui sont très efficaces. Et parmi ces moyens-là, il y a d'abord le moyen humain, donc on doit d'abord se baser sur le recrutement. Bien sûr, la réforme de la police est en marche, mais le problème se pose sur le recrutement. Qui doit être policier? On n'a pas de prendre n'importe qui parce qu'un jeune, des évaux, tout le monde, quoi faire, on le met dans la police parce que la police a besoin des agents. Non. Non, on doit prendre quand même des gens intelligents, des gens qui raisonnent bien, même si ayant un niveau de diplôme d'État, là, on doit quand même, il doit aussi avoir une bonne moralité. Deuxièmement, on doit aussi voir doter le moyen financier. Parmi le moyen financier, vous savez que non, lorsqu'il n'y a pas vraiment de motivation, et c'est ce qui pousse que non, même nos chers policiers commencent à se lancer dans des antivalères, disons, on trouve les policiers, ils commencent au lieu de sécuriser la population, ils commencent à insécuriser la population. Et ce qui crée maintenant la méfiance entre la police et la population. Aujourd'hui, lorsque vous rencontrez la nuit avec un policier, au lieu que vous sentez en sécurité, vous sentez déjà en insécurité, surtout si vous avez même quelque chose dans la poche. Et troisièmement, on doit doter aussi la police des moyens logistiques. Aujourd'hui, dans la mobilité, bien sûr, nous avons aimé, avec la réforme, il y a quand même des efforts qui sont fournis. Des efforts qui sont fournis dans le monde, dans l'esprit de faciliter la mobilité de la police, pour rapprocher, la police vers la population. Mais ces moyens-là, ces efforts-là sont encore jusqu'à là, presque finis, parce qu'il y a encore sur le terrain, il y a encore les besoins qui sont là. Et aussi concernant maintenant les contrôles, même la gestion des outils ou quoi là, heureusement, il y a déjà l'inspection générale de la police qui est sur place et qui fait un peu l'audit parce que la gestion du moyen, d'abord les logistiques de la police étaient vraiment gérées d'une manière un peu qui n'était pas bon à désirer. Et voilà.
Merci beaucoup Galvani d'avoir appelé. Lorsqu'on veut une police efficace et républicaine, il faut des moyens humains, des moyens financiers et aussi penser à faire les contrôles. Et vous saluez d'ailleurs de demain la toute dernière initiative qui émane d'ailleurs de cette réforme, la mise sur pied d'une inspection de la police qui est censée faire l'audit, le contrôle de moyens mis à la disposition de la police pour que cela ne puisse pas être dévié ou ne puisse pas prendre d'autres directions. Merci beaucoup Galvani d'avoir appelé des Mbujimaï au Kasaï oriental. Omar, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Omar.
Bonjour J.A. Lungembo et bon début de semaine à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs. Comment commentez-vous cette actualité Omar?
Merci beaucoup J.R. L'honnêteté intellectuelle m'oblige ou me contraint à féliciter les gens qui ont initié ce plaidoyer, car nul ne peut ignorer que nous sommes un état des droits et ces derniers a comme caractéristique principale le respect des normes établies. L'invité l'a dit, mais moi je voudrais commencer par l'article 190 de la loi fondamentale qui définit la police, qui est, n'est-ce pas, l'organe de l'État chargé de faire la sécurité des personnes et des biens. Mais comment arriverons-nous à cette sécurité sans moyens? L'invité a parlé de l'article 14 de la loi sur la programmation. Tous les juristes savent, la logique juridique voudrait que la loi cadre soit respectée par la loi qui la mettra en œuvre. Si réellement l'article 14 qu'il a évoqué a été décidé. Mais les députés sont des légalistes, ils ne peuvent que respecter la loi. Aujourd'hui, la police n'arrive pas à bien faire son travail pour plusieurs causes, parmi lesquelles on voit le manque de moyens. Vous l'avez toujours dit hier, il n'y a pas de vertu sans le minimum du bien-être. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être performant si on ne met pas à des bonnes conditions de travail. Des deux, il y a ignorance de la loi. Ces policiers ne savent même plus de faire un tour sur le terrain. Ils arrêtent même lorsqu'il n'y a pas infraction. Et comment arriverons-nous sans moyens à les former? De trop, et ce qui est aussi important, c'est l'indifférence de l'autorité budgétaire. Les députés est une courroie de transmission entre le peuple et les gouvernants. Il n'est pas là pour satisfaire les aspirations politiques de son parti. Il est là pour travailler pour le bonheur du peuple. Si les députés aiment vraiment le peuple ou les sénateurs, mais ils doivent que le faire. Parce que la sécurité est un pilier fondamental. Sans sécurité, il n'y a pas de travail. Sans sécurité, il n'y a pas de développement possible. Mais que pouvons-nous faire maintenant pour le faire? Je dirais comme l'invité premièrement. Il faut qu'il y ait volonté et conscience des députés et sénateurs. Ils ont été élus par le peuple pour travailler pour le bonheur de ces peuples. Nous avons connu des grands députés comme Gérard Bakajika. On parle de la loi Bakajika. Ce sont des gens qui ont marqué leur temps. Les professeurs Bakandeja avec la commission Bakandeja. Mais qu'en est-il des autres? Il faut qu'ils marquent aussi leur temps en initiant des lois comme ça pour l'intérêt du peuple congolais, car sans sécurité, il n'y a rien. Des deux, je voudrais interpeller aussi les peuples congolais. Ce combat ne doit pas se limiter au niveau de l'ONG qui l'a fait. Adolf Hitler disait, ce qui triomphe le mal des fois au monde, c'est l'inaction des gens bons. Et Martin Luther King a dit, ce qui fait au corps le mal, c'est l'indifférence des gens justes. Nous sommes là seulement pour critiquer le gouvernement. Mais qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, la Constitution, à l'article 160 alinéa 2, a donné la possibilité à tout citoyen de dénoncer un acte anticonstitutionnel. Aujourd'hui, cet acte ne nous plaît pas. L'ONG ne peut pas le faire de façon isolée. Il faut que la population, de façon pacifique, puisse
m'accompagner
pour faire comprendre à tout le monde que ça ne marche pas. Et je voudrais finir par la conscience aussi des gouvernants qui élaborent des budgets. Nous devons savoir que sans sécurité n'est rien et la sécurité a un prix à payer. Si sous trois solutions sont appliquées, je pense à mon avis que on aura déjà fait œuvre utile. Merci beaucoup, J.R., et je vous remercie.
Merci beaucoup, Omar, pour cette contribution très pertinente dans cette émission Parole aux auditeurs. Nous restons à Kinshasa pour accorder la parole à Richard, qui est à Kinshasa. Richard, bonjour.
Bonjour, J.R., bonjour à tous. Et félicitations à Omar. Quand Omar a déjà parlé, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Je fais de ces déclarations mes déclarations, en totalité. Et j'ajoute ceci. Une réforme sans moyens, c'est le blabla. Une réforme sans moyens, c'est faire de cette police-là Elanga. Donc, faire de nous Elanga ya ba policiers. C'est-à-dire, nous devenons les champs des policiers. Ils doivent récolter sur nous. C'est pourquoi quand nous nous présentons à la police, pour dénoncer le mal tel que Omar a dit dans un article de la Constitution, on nous fait payer le pied du policier, on nous fait payer le bic, on nous fait payer les feuilles. Où allons-nous?
Voilà, plus loin, il y a même un auditeur qui nous a écrit, qui a gardé l'anonymat, qui parle même aujourd'hui de la vente même des tenues, hein, les tenues des policiers qui sont commercialisées au niveau même de la police nationale. C'est vraiment une aberration, c'est inadmissible de voir un policier pour avoir une tenue neuve. Il faudrait qu'il débourse $35, donc ils n'ont pas droit, ils n'ont plus droit à une dotation. La dernière fois qu'ils ont reçu leur dotation, c'est pratiquement à sa date de 2013 et 2014. Il y a même certains parmi eux qui n'ont même pas reçu leur dotation en équipement donc ou en tenue. Voilà, donc c'est vraiment un problème. Merci beaucoup, docteur Richard, d'avoir appelé de Kinshasa. Augustin, vous êtes à Kindu. Bonjour, Augustin.
Bonjour, JR.
Vous avez la parole, Augustin.
Merci beaucoup, M. JR. Aujourd'hui, on parle des réformes de la police, M. JR. C'est ça. On parle encore du problème de la fonction de la police judiciaire et la police administrative. Je voulais que notre invité un jour puisse nous donner, nous éclairer là-dessus. Est-ce que la police judiciaire portera aussi la tenue de la police administrative aussi? Merci beaucoup. Il y a un concours des inspecteurs de police judiciaire qui s'est passé à l'étendue du pays. Où en sommes-nous dans ce concours-là? Merci, M. Gilles.
Voilà, merci beaucoup Augustin. 081 890 63 15. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Emmanuel Kabengele, vous êtes le coordonnateur du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice, une ONG qui a initié également ce plaidoyer de la société civile pour dénoncer donc la non prise en compte par le gouvernement des besoins en crédit budgétaire liés à la réforme de la police pour l'exercice 2014. Vous avez suivi les uns et les autres, la Guillois qui a parlé de la sécurité qui constitue un poumon de la paix, Galvani qui est revenu sur une police efficace et républicaine qui passe par des préalables, notamment les moyens financiers, les moyens humains et aussi des conditions des contrôles. Omar qui a évoqué quelques lois, quelques articles de contenu dans les lois, dans la loi fondamentale. Richard l'a appuyé en disant que une réforme sans moyens, c'est vraiment une coquille vide. Alors, comment réagissez-vous par rapport à ça?
Ce sont des réactions positives parce que les amis ne font que soutenir la démarche et même le fait que nous soyons arriver chez vous, c'est une manière de faire appel à la conscience collective, à la conscience de toute la population, car il y va de notre sécurité. Les questions actuellement de sécurité, ce n'est plus simplement l'apanage des seuls prestataires de services de sécurité, c'est l'apanage de tout le monde. Et je souscris pratiquement, et il y a de belles phrases, vous voyez Omar, il y a une des phrases là, il n'y a pas de vertu sans le minimum du bien-être. J'ai essayé de retenir cette phrase et je voudrais juste à partir de cette phrase essayer de faire un commentaire sur ce que nous on considère comme la vraie réforme. La vraie réforme, c'est beaucoup plus l'amélioration dans la prestation de services. Cette amélioration dans la prestation de services exige un certain nombre de préalables, exige qu'il y ait suffisamment de moyens conséquents. Lorsque vous vous dites qu'il y a quelqu'un qui a gardé l'anonymat, qui se plaint du fait qu'il y a même vente de tenues, de uniformes, de policiers.
À 35 dollars, il y a un auditeur qui nous a écrit et qui garde l'anonymat.
Qui ne touche pas grand, donc je crois que ça c'est quelque chose de beaucoup plus à plaindre. Ça, ce sont pas des habits civils, ce sont des habits qui relèvent d'un certain pouvoir. Lorsque vous avez une tenue, lorsque vous avez l'uniforme, ça relève d'un certain pouvoir et vous êtes craint à partir de cet uniforme. Là, ici, on doit vous vendre déjà cet uniforme. Ça, ce sont des cas malheureux. Et notre souci, pour que la loi de programmation soit beaucoup plus intégrée, parce que pour le policier moyen, la réforme se situe plus dans l'amélioration de ses conditions d'existence, dans l'amélioration du social. La réforme, bien sûr que le texte, ça va, mais pour lui, le texte, ça ne dit pas grand-chose. Pour lui, le texte, bon, c'est plus pour ceux qui sont habitués à lire les textes. Mais la vraie réforme pour le policier, c'est l'amélioration de ses conditions d'existence. Il y a cette loi de programmation qui retrace déjà un certain nombre d'actions qui peuvent...
Oui, parce que je vois ici, par exemple, dans votre plaidoyer, vous avez détaillé d'ailleurs ce que prévoit la loi de programmation. Il est dit pour le personnel 11 856 267 693 francs congolais. Alors donc, est-ce que c'est ce qui est repris aujourd'hui dans la loi budgétaire?
Non, dans la loi budgétaire, ça ne nous permet pas de voir si ceci est repris.
Tel que détaillé, biens matériels, dépenses, les prestations.
Sincèrement, ces détails ne figurent pas dans la loi budgétaire. C'est même ça l'objet de notre inquiétude.
On s'est dit qu'est-ce qui est repris dans la loi budgétaire finalement?
Bon, il y a un montant. Il y a un montant beaucoup plus d'ordre global, mais qui reprend tout ce qui est aspect lié à la réforme.
Qui va au-delà de ce qui est prévu dans la programmation ou bien c'est en deçà?
Non, pour nous, on ne s'est pas situé parce que ce montant la reprend également pour la réforme de l'armée, la réforme des autres services. Donc, parce que la réforme du secteur de sécurité ne comprend pas simplement la réforme de la police. Ça comprend la réforme de l'armée, ça comprend la réforme
même de la réforme de l'éducation, au niveau de l'éducation.
La réforme de services d'intelligence, ce qu'on appelle les agences
d'intelligence. Okay,
et puis la réforme de la justice. En fait, il y a encore un peu un budget d'ordre global qui est pratiquement affectée. Mais vous savez,
lorsqu'on donne la part allouée aux uns aux autres soit clairement définie.
Oui. Vous savez, dans le cadre du budget, il faut que les choses soient claires dès le départ pour faciliter l'exécution. Si on dit simplement qu'il y a une enveloppe d'ordre global, bon, qu'est-ce qui nous garantit que l'exécution sera à la limite de cette enveloppe d'ordre global? Et notre souci, c'est que la loi de programmation soit reprise telle qu'elle en termes de besoins en crédit budgétaire, parce que déjà, c'est une obligation même déjà légale. Donc, déjà, la loi de finances.
Mais parce que vous avez eu des contacts avec certains parlementaires, vous avez eu des contacts, et j'ai vu même, dans la note des plaidoyers, vous recommandez d'ailleurs au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, celui de la Défense et celui de la Justice, à clarifier un peu la chose. Est-ce que vous avez eu à contacter ceux qui sont concernés pour ne fût-ce que vous faire une idée sur ce qui s'est passé concrètement?
Bon, en fait, un peu, on prétend, dans le cadre de certains contacts, on prétend que la promulgation de la loi de programmation est venue en retard par rapport déjà au projet du budget qui était conçu.
Et pourtant, le projet a été discuté avec la société civile.
Bon,
parce qu'il y a eu des échanges au niveau du ministère des budgets qui a organisé à l'époque, au mois de février de l'année 2013, des ateliers pour associer même la société civile pour l'élaboration de 2014.
Mais le problème qui est là pour nous, c'est pas le fait que, vous savez, la loi a été promulguée le 24 décembre, mais la défense du projet de budget, c'est au cours de cette session ordinaire. Donc, c'est dire que, déjà, tant que c'était encore un projet, la loi qui vient d'être promulguée, on pouvait déjà directement l'insérer. Parce que l'argument, c'est toujours...
Est-ce qu'il y a possibilité de revoir cela?
Il y a possibilité parce que l'autorité budgétaire ne s'est pas encore décidée. Tout ce qui est là, c'est encore en termes de projet. C'est même pour
parce
cela
que le budget est recevable.
Oui, le budget est recevable. Il est en étude pour les réaménagements. Si nous essayons de lancer le cri d'alarme auprès de nos amis élus, si nous essayons de leur faire voir la chose, parce que le budget n'est pas encore adopté, donc le budget est encore, c'est encore un projet, c'est encore en analyse. On se dit que c'est maintenant le moment où on doit proposer et on se dit qu'on pourrait être entendu. On a eu déjà...
Donc vous lancez un SOS pour que les gens tiennent compte de la loi de programmation promulguée par le chef de l'État. Dans le cas contraire, ça serait une violation
De la loi et puis la réforme risque d'être théorique comme certains amis l'ont dit.
Voilà, et espérons que les arguments selon lesquels la loi est arrivée en retard et que le budget a été déjà élaboré avant, bon, je crois que c'est là pourrait ou ne pas disons marcher ou tenir la route. Bon, on verra. On va repasser à nouveau au niveau des standards. Akilimani est à Kindu, ingénieur Mangoyo est à Kinshasa et puis Léon à Kananga. 081 890 6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Akilimani, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot, bonjour au Radio Capi, bonjour à notre invité.
Vous avez la parole, Akilimani.
Merci, monsieur JR, de m'avoir encore accordé la parole, encore une fois de plus, pour l'année 2014. J'ai trois questions à poser à notre invité, mais avant que je pose d'abord mes questions, je voudrais d'abord vous dire ceci, monsieur le journaliste, que c'est alors depuis longtemps que cette émission a été accordée à la Radio Capi. Mais chaque fois, nous sommes en train de gaspiller le temps pour défendre, pour donner les différentes suggestions, alors qu'il n'y a rien qui s'accomplit, pour ce que nous sommes en train de parler. Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la réforme de la police. Alors, je voudrais d'abord savoir, ma première question est de savoir quelles sont les conditions d'abord pour être retenu comme un policier. La deuxième question, quel est le rôle de la police? Et la troisième question, les policiers congolais touchent combien d'argent? Et puis, si nous disons que la réforme de la police est un peu à la une de cette émission d'aujourd'hui, au moment qu'il n'y a aucune chose qui est vraiment mise en marche pour la réforme de la police congolaise, au moment où ici à Kindu, nous sommes en train de vivre dans l'insécurité. Et ceux qui sont à la base de cette insécurité-là, ce sont les policiers. Il y a des hommes qui sont tracassés. Pendant la nuit, ce sont souvent les policiers qui tracassent les gens. Ils arrêtent des gens comme ça, sans sans infraction, alors nous ne savons pas comment faire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que les députés et les sénateurs d'être d'abord conscients, qu'ils libèrent d'abord à leur salaire pour que la réforme des policiers soit un peu améliorée ou quoi? Parce que monsieur le journaliste, ça fait longtemps que nous sommes en train de parloter sur le problème de la réforme de la police à la radio Capi. Alors il n'y a rien qui s'accomplisse à tout cela, monsieur. C'est vraiment totalement très honteux à chaque fois parler d'une chose qui n'est pas réalisable, chaque fois discuter, casser les nerfs de tête pour rien, alors ça nous fait voilà. Vraiment du mal. Et c'est pour cette raison, je voudrais c'est que les députés et les sénateurs qui soient d'abord conscients de
voilà, Akilimani, il faut retenir une chose que Paris ne s'est pas construit en un seul jour, hein. Il y a eu des débats et des débats jusqu'à avoir, l'Hexagone à son format actuel. Et je crois que dans la démocratie, c'est les débats qui priment, c'est l'échange. Pour qu'on arrive, pas à une nation très parfaite, parce que même dans le pays de la vieille démocratie, hein, les débats continuent, les gens continuent à parler. Et je crois qu'il y aura un jour où les choses pourraient peut-être changer, mais il y aura toujours des problèmes tant qu'on est sur cette terre. Merci beaucoup Ali Akilimani d'avoir appelé de Kindu. Ingénieur Mangoyo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, merci pour m'avoir accordé la parole.
Comment commentez-vous cette actualité?
Je commencerai par dire, je suis d'accord avec vous, on va continuer à parler, parce qu'on ne doit pas baisser les bras. Vous savez... c'est bien de faire la réforme de la police. Vous savez, ce n'est pas maintenant qu'on est contente de réformer la police. On a fait des réformes de la police, je me rappelle, à son temps, hein, depuis la Deuxième République. Moi, je me rappelle bien à l'époque de Mobutu, nous avons eu la garde civile, nous avons eu finalement la gendarmerie, il y a eu, il y a eu beaucoup, beaucoup de réformes, mais... le résultat n'est pas celui que tout le monde attend et tout le monde attendait. Pourquoi? Ici, je veux répéter ce qu'a dit l'un des politiques proches de la majorité, qui est interviewé dans une radio périphérique, à la personne de Jean-Marie Kassamba, qui disait que l'homme est au centre de tout. Ça, c'est un principe de management. Mm-hmm. Je suis d'accord avec eux. Mais autant l'homme est au centre de tout, mais nous constatons que on néglige. Je vous cite deux exemples, M. Gier, pour illustrer que la police a besoin de moyens financiers et d'autres moyens pour vraiment être une police efficace.
Et républicaine, comme l'a dit notre ami Galvani.
Oui. Vous savez, Gier, il n'y a pas longtemps, le vendredi passé ici, moi j'ai un ami qui a été victime, d'un vol sur Wangata. Il rentrait. On s'est séparé, il rentrait des services, il avait son sac, il habite Gombe. Eh bien, il a pris Wangata pour prendre 20 du livre, vers 20, aux alentours de 20 heures comme ça. Il y a un motard qui avait vraiment, qui transportait aussi un complice, et on lui a ravi son sac, là-dedans, il y avait de l'argent. Et aussitôt, l'ami a tenté l'impossible, il est allé juste sur Willery, il a trouvé une jeep de la police qui apparemment faisait la patrouille. Et vous savez, c'est que quand il s'est plaint, vous savez, c'est qu'on lui a dit, non, mais nous n'avons pas du carburant. Si vous avez un peu d'argent, donnez, comme ça on met du carburant pour qu'on puisse peut-être vous assister. Et ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Et ça, nous l'avons vécu. Vous voyez ça? Alors, moi je ne comprends pas. Vous voulez faire la réforme de la police et vous ne voulez pas donner les moyens financiers à la police. Mais comment ils vont le faire? Voilà, c'est ici l'occasion, JR, de relancer ce que nous appelons les élus du peuple. Il faut qu'ils travaillent très bien, qu'ils essayent de faire le contrepoids. Parce que si, au niveau de la police, il y a cette bonne volonté, on fait des textes, on veut faire la réforme, lorsqu'on ne donne pas les moyens, comment voulez-vous avoir une police efficace? Nous avons un autre exemple ici. Moi, je suis à Malweka, JR. Vous savez, Omar a dit ici qu'il faut dénoncer, en vertu du principe, de la loi
fondamentale.
Je suis d'accord avec lui. Mais vous savez qu'un jour, moi, j'ai trouvé un gars comme ça, au niveau du petit marché ici à Malweka, ici, qui s'abonnait à, comment on appelle ça, il y a des jeux de hasard, là. Vous savez, mm-hmm. Ce jeu de hasard aussi est quand même légiféré, JR.
Oui.
Je suis arrivé, je suis allé à la police pour dire, écoutez, parce qu'il y a des jeunes, déjà des enfants qui passaient avec l'argent, on leur a fait de l'argent, ils pleuraient, ils rentraient, ils étaient tapés par leurs parents. J'ai vu ça personnellement, je suis allé à la police pour dire à la police, voilà, me plaindre, voilà, il y a quelqu'un qui s'adonne au jeu des hasards, là, des hasards.
Hasard, oui.
Et il est en train
comme
de...
Comme il m'a appelé, mon
délai a changé. Déranger la population. Ouais. Vous savez ce qu'on m'a répondu, j'ai à la police. Et le commandant me dirait, mais mon cher ami, mais qu'est-ce que vous pensez que celui qui opère là-bas, il n'a pas de papiers? Alors, investigation faite, j'ai vite constaté que ce monsieur donnait quelque chose à la police. Donc voilà, je crois qu'il faudra qu'on arrive à organiser la police pour qu'aujourd'hui,
sécuriser le personnel.
Le général Chose Kanyama qui a dit, rien ne se fera comme avant, mais s'il n'a pas le moyen... Il va faire ça comment? Il faut que nos députés...
Oui, oui. Ingénieur, là, on va également faire un autre débat autour de ça, parce que il faudrait qu'on revienne un peu expliquer également les attributions des uns et des autres, l'inspection, qu'est-ce qu'il fera comme travail réellement, et les commissariats, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a quand même une confusion dans la tête des Congolais. L'inspection est à la charge, ou au fait, est chargée de faire les contrôles, l'audit de décisions prises par l'exécutif pour être exécutées au niveau du commissariat. Ce n'est pas le contraire qui doit être fait, donc ce n'est pas le commissariat qui doit contrôler l'inspection. Merci beaucoup, ingénieur Mangoyo, d'avoir appelé de Kinshasa et surtout de nous avoir fait quelques révélations. Léon, vous êtes à Kananga. Bonjour, Léon.
Bonjour, Gérard Lungembo, et bonjour à notre invité. Emmanuel Kabengele.
Voilà, depuis 2005, le gouvernement de la RDC entreprend la réforme du secteur de la sécurité en général, et la police en particulier. Alors la promulgation le 24 décembre dernier par le président de la République de la loi portant programmation de la mise en œuvre cette réforme pour la période 2014-2017 devrait en principe constituer un espoir pour tous les peuples congolais. Il s'est fait malheureusement, le budget ne reprend pas clairement cette loi de programmation. Comment vous commentez cette actualité?
Merci beaucoup, Gilles, pour m'accorder la parole. Moi, je voudrais savoir, un pays sans moyens, une réforme sans moyens, qu'est-ce qui peut se faire normalement? Moi, je me demande chaque jour, le peuple congolais attend une sécurité auprès de son gouvernement. Ici à Kananga, nous avons des choses, nous vivons des choses graves de ce qui se passe entre la police et la population congolaise. Prenez-vous en tête un policier qui va arrêter en civil à une distance de 5 mètres de son bureau de travail. Il l'oblige de payer 30 000 francs, communément appelé Mako. C'est pourquoi? Parce qu'il n'est pas bien payé. J'ai l'exemple d'un ami, du quartier, qui est policier, qui a connu l'accident en mission de service, après un conflit de pouvoir, pour le rétablissement de l'État public, et qui se retrouve aujourd'hui abandonné par l'État pendant que c'était une mission de service que le gouvernement provincial avait autorisé. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est allé voir M. Timbalanga, qui représente la réforme de la police ici au Kasu Central, pour contacter certaines autorités. Et on ne voit rien. Et prenez-vous en tête un policier pareil, qui se retrouve devant un civil pendant la nuit, qu'est-ce qu'il peut faire avec lui? Si le peuple congolais là a des moyens dans ses poches. Donc ce que nous demandons à l'État congolais, ce que nous demandons à notre invité Emmanuel Kabengele, c'est prendre des contacts avec le gouvernement congolais pour que cette loi du 24 décembre 2013 soit appliqué. Donc c'est ça, c'est ça une petite contribution de ma part.
081-890-6315, c'est notre numéro de contact.
Parole aux auditeurs.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs. Monsieur Emmanuel Kabengele, vous avez suivi cette série des auditeurs. Mais avant que vous puissiez répondre à leurs préoccupations, dans vos recommandations, il est dit quelque part que en opérant des prélèvements budgétaires sur les allocations prévues pour certaines institutions et certains secteurs pour les affecter en faveur de la réforme de la police. Vous pensez encore que cela est possible?
fois cela est possible parce que le budget n'est qu'un projet. Hein? Le budget n'est qu'un projet. Vous savez, généralement, lorsqu'on propose un budget, il y a deux fois certaines rubriques qui peuvent avoir de gros montants. Par exemple, si c'est pour les matériels de bureau, si c'est pour les fournitures.
Parce que
si
ce n'est pas un secret. Il y a pratiquement dans tous les secteurs de la vie, les gens se plaignent. Les gens demandent à ce que la part allouée elle soit revue à la hausse. Mmh. Alors maintenant, aller vers d'autres institutions, ça risque de paraître une illusion.
Tout est question de priorité. Lorsqu'on considère que un domaine est prioritaire, ça voudrait dire qu'on doit faire les sacrifices pour que, au moins, on puisse, à un moment donné, s'attaquer d'abord à ce.
Alors, vous avez analysé les fonds à comble le budget, où on peut facilement.
Oui, nous avons analysé de fond en comble le budget et on a même fait un tableau de simulation pour voir, sans changer le montant global proposé. Parce que lorsqu'on propose un montant global, ça voudrait dire qu'on est à même de trouver ce montant global-là. Donc on se dit, bon, peut-être si on demande que le budget soit monté à la hausse, on va demander également quels sont les moyens pour trouver le montant. Mm-hmm. Donc les recettes seront de ce montant global proposé, mais déjà on peut jouer avec le rubrique pour accorder priorité à ce qui est prioritaire. Parce que au moins pour cette phase...
Vous pensez que la police est prioritaire, l'éducation ne l'est pas?
Non, l'éducation est prioritaire. Donc, et puis dans les propositions, on ne demande pas de toucher
à l'éducation. Déjà, l'éducation, la part allouée est trop faible.
Trop faible déjà.
Même les secteurs de la société civile demandent à ce qu'on aille à 30%.
Vous savez qu'en termes de plaidoyer, on peut faire des plaidoyers sur chacune de rubriques. Mais nous, ce qui nous importe d'abord pour le moment, parce que c'est la sécurité qui pose actuellement le plus gros problème.
Parce que sécurité, il n'y aura pas d'éducation.
Il n'y aura pas d'éducation, il n'y aura pas la santé. Et vous savez, même dans les préoccupations des auditeurs, ils reviennent sur le fait qu'il y a eu des réformes dans le temps qui ont été sans résultat.
Garde civile, par exemple.
Qui ont été sans résultat. Pratiquement ça, ce sont des réformes que l'on a connues, juste de réformes en termes de changement de nom, juste de réformes en termes de... Le processus de réforme tel que nous on le voit, c'est un processus de transformation d'une institution pour que l'institution arrive à gagner la confiance du public. Ça voudrait dire qu'on a affaire à des institutions qui ne portent plus en est le crédit du public. Le public n'a plus confiance en telle institution et il faut un processus de transformation pour que le public commence à dire enfin, ça y est, nous avons la police qu'il nous faut, nous avons ceci, la police est à l'écoute, la police... C'est en fait un peu ça le thermomètre d'appréciabilité de la réforme. Donc pour nous, pour qu'on dise qu'une réforme est réellement réforme, il faudrait qu'elle gagne la confiance, que le public reconnaisse que cette institution, qui jadis était une institution bourreau de droits de l'homme, c'est maintenant une institution qui protège le droit de l'homme. C'est une institution où on se sent en sécurité. Et jusque-là, le pari comme tel, on ne l'a pas encore gagné de ce côté-là. Et même des réformes qu'il y a eu dans des temps, ce sont des réformes qui, en termes de prestation de services, la qualité n'avait pas changé. Et nous, on apprécie la réforme par rapport à cette donne-là. Il y a eu des réformes dans le temps, mais le résultat, au fait, c'est qu'on n'a pas eu à avoir des résultats qu'on attend de la réforme. Donc, on pense que les institutions doivent passer par un processus de transformation pour que les services gagnent la confiance, pour que lorsque je vais à un commissariat, que je me sente beaucoup plus à l'aise qu'insécurisé. Voilà pratiquement pourquoi les amis sont sceptiques, parce qu'il y a eu ce genre de réforme, mais ça n'a pas abouti à des résultats. Mais nous, on voudrait qu'il y ait des moyens pour que cette fois-ci, au moins, on puisse corriger. Vous savez, même lorsqu'on parle de la réforme de la police, lorsqu'il y a l'expérimentation de la police de proximité dans certaines provinces pilotes, avec la commune de Kinshasa et au Bas-Congo, et nous avons aussi au sud, Kivu, au Kasaï occidental, et tout ça. Alors, vous voyez déjà que lorsque vous arrivez dans certaines communes pilotes où on expérimente cette police, vous sentez que petit à petit, il y a un début de la confiance qui renaît, au moins pour des études qu'on a eu à faire sur la mise en œuvre de cette police de proximité. Mais si cela est répercuté partout, je me dis que la confiance pourrait davantage renaître.
Il y a un auditeur qui a aussi qui est l'anonymat, qui parlait de cas de mobilité de la police, en évoquant le matériel roulant qu'on avait remis tout récemment aux policiers. Mais ce qui étonne plus d'un, vous remarquerez un véhicule véhicule de la police de Massina qui circule à 2h du matin à Lingwala, par exemple. Donc,
vous savez, c'est pour cela qu'il y a l'inspection générale de la police. Oui. Vous savez, le rôle de l'inspection et la confusion qu'il y a qu'a nos amis sur l'inspection, c'est parce que dans des temps, on avait...
L'inspecteur qui descendait, qui chassait les gens, l'assainissement de la
non police. Non, simplement ça. Dans des temps, ce qu'on appelle actuellement commissariat provincial, on appelait inspection provinciale. Tout à fait. Et on a toujours tendance à penser cette logique-là dans le temps. Maintenant, c'est un organe de contrôle. C'est un organe de contrôle même de la gestion du... C'est pas pour rien qu'on a...
Si c'est parce que cette confusion, moi, ça m'étonne. Dernièrement, j'ai vu avec l'assainissement de la ville une marchande qui dit non, mais le général de l'inspection de la police de la ville de Kinshasa a chassé les gens. J'ai dit, moi, c'est...
Bon, il y a encore cette confusion. Il faut vulgariser. C'est encore un début. C'est un processus pratiquement ça. Et ce sont de nouveaux noms auxquels on n'était pas habitué. Je crois que le temps pourrait faire en sorte qu'on puisse s'y habituer.
Voilà, on va revenir encore à vous, Monsieur Kabengele, Emmanuel. On prend cette troisième série des auditeurs. Calypso qui est à Kinshasa, Maurice dans la même ville et Jean-Claude à Lubumbashi. Calypso, bonjour. Voilà, dommage, Calypso n'est plus en ligne. Maurice, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, J.R. Lungembo.
Vous avez la parole, Maurice, pour commenter cette actualité.
En fait, moi je voudrais d'abord réagir, contrairement à je crois, à l'ingénieur Mangoyo, qui a fictigé un peu un auditeur, qui disait que on va toujours revenir sur les mêmes émissions, et mettre toujours les mêmes avis, suggérer, donner des propositions, et par enfin, il n'y a rien qui se passe dans ce pays. Donc moi, en fait, j'ai l'impression que nous, on se plaint trop. Les Congolais se plaignent trop. Donc, ils sont vraiment des pleurnichards. Mais ils sont incapables réellement vraiment de faire changer les choses. Parce que on a trop parlé dans ce pays. On a trop parlé, mais nous sommes incapables de changer les choses. Donc, il a raison, cet auditeur-là. Et Omar qui a dit que c'est pas, il faut tout, pas tout que rejeter plutôt à l'État. Mais c'est faux. Maintenant, les problèmes qu'on a ici, et les débats d'aujourd'hui, c'est l'État d'abord qui est le responsable totalement de la situation. Comment pouvez-vous comprendre, nous sommes dans quel État où les gouvernements, les parlements et la présidence de la République prennent au moins les 70% du budget. 70% avec un budget maigre, un budget de misère, un budget de la honte même pour ces grands pays, le Congo. Mais on va prendre trois institutions qui ne représentent même pas 1% de la population active qui vont s'accaparer des 70% du budget. C'est pas normal. Nous sommes dans un état vraiment anormal, comme disait un invité là qu'on avait une fois dans notre émission ici. C'est un état anormal. Un sénateur qui vous gagne 13 000 $, un policier 65 $. Donc vous prenez un salaire d'un seul sénateur qui vous paye 200 policiers alignés. Est-ce que vous pouvez vraiment admettre ce genre de choses? On doit toujours venir sur cette émission parler, se plaindre, c'est comme si nous on les dorlotait. C'était donc on entend une certaine pitié de ces gens pour que ces gens-là nous comprennent afin qu'ils agissent à leur propre gré. Non, nous sommes Congolais. Nous avons des devoirs, nous avons des droits face à cette situation. Alors on ne doit pas tout le temps se pleurnicher, on ne doit pas venir amadouer les gens pour qu'ils fassent les choses. Et avoir la manière dont les questions de la sécurité, les questions de la souveraineté des pays sont traitées, escamotées au niveau du Parlement. Vous pouvez réaliser réellement que le régime ici ne vise rien d'autre que la fragilisation de ce pays. On veut que vraiment ce pays soit maintenu dans cet état où il se trouve. La sécurité de cet état est menacée. Chaque jour, il y a des problèmes à l'est du pays. Partout, même dans nos grandes villes, il y a des problèmes, des gens qui sont tués, violés. Mais on ne voit pas vraiment ces parlements, on ne voit pas ces gouvernements, on ne voit pas cette
présidence. Oui, alors Maurice, je crois que je voudrais quand même me faire quand même une idée. Hein. Pourquoi même dans les pays de la vieille démocratie, il existe encore des parlements, il y a même des questions qui sont débattues chaque année et qui reviennent, jusque même après 5 ou 10 ans, il y a quand même des solutions qui sont trouvées.
Non, en fait, dans les pays, comme vous dites, des grandes démocraties, à chaque fois, raison pour laquelle vous voyez que d'abord les élections...
Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui que dans le pays...
À chaque fois, quand un programme, un gouvernement n'arrive pas à pratiquer son programme,
il est automatiquement demi. Il est automatiquement
les débats actuels. Alors là, c'est au niveau du souverain primaire. C'est pourquoi nous sommes obligés de vulgariser, de sensibiliser à chaque fois que nous revenons et à chaque fois que nous disons que telle chose ne marche pas. Et il revient à la population de juger le jour où nous irons aux élections. Je crois que c'est ça l'objectif.
Mais en fait, c'est ça, monsieur Julien.
Voilà.
En fait, les élections, les problèmes.
Donc, nous ne pouvons pas nous fatiguer. Nous ne pouvons pas nous fatiguer, Maurice. Comme vous l'avez dit, vous êtes nationaliste. Il faut engager des débats, des débats de fond, réfléchir et faire des propositions. Pour les cas actuels, la société civile est montée au créneau pour dire, ben voilà, il y a une loi de programmation qui, en fait, fait obligation, en tout cas au niveau de la loi budgétaire. Il s'est fait malheureusement que cela n'a pas été repris lorsqu'on a pu élaborer ces budgets. La raison avancée par le gouvernement, c'est que le budget a été élaboré avant que la loi de programmation ne soit promulguée. Donc c'est une raison qui tient quand même la route.
En fait, monsieur Gérard Lungembo, je vous dis que donc c'est moi je suis un peu étonné de la manière dont les choses sont. C'est que je disais, je crois, il y a deux ou trois jours, mais c'est là je disais que les véritables parlements, moi je considère que c'est notre émission ici, Parole aux auditeurs. Parce que ici, en suivant quand même les débats au niveau de cette émission, vous allez réaliser que le travail qui s'est fait ici, bien que nous n'avons pas des prérogatives constitutionnelles,
oui,
qui peuvent quand même nous autoriser quand même à imposer par exemple nos déclarations ou nos suggestions, mais néanmoins on peut constater que ce que nous disons ici, nous sommes dans le réalisme par rapport aux gens qui vont aller là-bas juste pour faire du bruit, et à la fin du mois, ils ont 9 000 $, et les autres là-bas 13 000 $, et par la fin, le pays est en train vraiment de
connaître
la situation que tout le monde déplore ici. Donc, c'est un problème d'homme. On n'a pas d'autres problèmes. Donc,
merci
les gens
beaucoup.
Qui sont ici, ce ne sont plus voilà. des gens à qui on doit destiner.
Voilà, mais Maurice, on va.
Ce sont des gens qui doivent partir.
Merci beaucoup, Maurice. On doit évoluer. Il y a Jean-Claude qui attend et Rodrigue qui est à Likasi. Jean-Claude est à Lubumbashi, tous au Katanga. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour, JR. Voilà. Bonjour vraiment à tous les auditeurs.
Voilà, vous avez 45 secondes, Jean-Claude.
Oui, monsieur JR, c'est vraiment déplorable. J'aimerais vraiment m'indigner fortement puisque ce qui se passe dans notre pays, vraiment, on ne sait pas le comprendre. La réforme de la police, tout comme les autres réformes, disons, la réforme des autres services de sécurité et même d'autres services de l'État tels que l'ANR, la division des transports, je m'excuse puisque moi je suis du domaine
transports.
De la sécurité prévention routière, et j'aimerais vraiment parler qu'il faudrait réformer tous ces services. La réforme vraiment est très 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 importante, et surtout la réforme de la police. Mais si aujourd'hui vous devez, donc si aujourd'hui on n'a pas programmé la réforme de la police dans le budget de 2014, c'est vraiment lamentable, puisque nous n'avons pas du tout la police. Et imaginez-vous, monsieur JR, la police est l'image même du pays. Et ici, nous n'avons pas de la police. La police, c'est comme un dépotoir, là où vraiment quelqu'un qui a échoué ou bien est raté, qui se déverse seulement dans la police. Et nous connaissons maintenant tous les mots possibles de ce monde dans la police. Donc nous ne pouvons pas continuer à accepter vraiment d'être en insécurité notoire, puisque là on ne peut pas dire que nous sommes sécurisés par la police, mais par contre nous sommes dans une insécurité notoire avec cette police, puisqu'on a pris n'importe qui, même des gens qui ne savent pas, je m'excuse, des gens qui ne savent pas écrire leur propre nom, on les déverse dans la police. Quelqu'un qui a la tête en panne, on le déverse dans la police. Et vous pensez que vraiment ces gens-là peuvent faire quelque chose?
Donc il faut des moyens,
c'est un problème de mauvaise foi et de manque de volonté. Puisque, à ma connaissance, je suis vraiment un patriote. Et je sais très bien, même à mon niveau vraiment, que je peux vraiment faire une réforme très bien et rendre cette
voilà,
police
espérons,
vraiment
espérons qu'un jour vous serez à même de pouvoir aider et aussi comme nous le disons toujours dans cette émission, nous faisons des propositions qui veut entendre donc pourvu que la solution soit trouvée, mieux vaut tard que jamais. Voilà, mais nous n'arrêterons pas de faire des propositions. Merci beaucoup. Alors Rodrigue, on vous accorde juste 30 secondes avant de clore cette émission avec notre invité. Rodrigue, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, bonjour Julien, bonjour.
Oui, en 30 secondes, soyez précis et concis.
Mon temps de vie sur la réforme de notre police, c'est un dossier qui demande beaucoup de la volonté de nos autorités, l'augmentation des salaires, et puis la discipline, là on va réussir le pari. Et puis encore, Julien, là où je déplore, vous savez, là où nous sommes ici au Katanga, nous sommes, c'est un pays qui est frontalier, hein. Nous sommes entrés par la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe et d'autres pays. Mais quand nous remarquons des gens qui viennent dans d'autres pays pour la RDC, quand ils trouvent notre police incompétente, vraiment, ils se posent une question. Vraiment, nous devons faire le tout pour réformer
pour changer, la police, pour repenser.
Mettre beaucoup de la volonté, là, on va réussir.
Merci beaucoup, Rodrigue. Emmanuel Kabengele, on est presque à la fin de notre mission. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à votre démarche?
Bon, par rapport à la démarche, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a fait des suggestions à travers notre note de plaidoyer pour que les députés qui sont encore en train d'analyser ce projet de budget puissent vite rectifier les tirs et faire en sorte que la loi de programmation puisse être intégrée dans la loi de finances l'exercice 2014. Et cela sera non seulement une question de respect d'une obligation légale, c'est également une question de respect de cohérence par rapport à ce qui est déclaré dans les discours par rapport à la volonté politique des autorités dont le chef de l'État. C'est également aussi le respect d'une poursuite d'un processus que nous voudrons à un moment donné qu'il soit plus effectif.
Emmanuel Kabengele, vous êtes coordonnateur du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup.
Allô? Mais ils ne répondent pas?
Voilà, merci à tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à Jean-Claude Diala qui a assuré la mise en onde de cette émission. Pierre Lamégie l'a réalisé, J.R. Lungembo vous l'a coordonné sous la supervision de Nicole Ngakar. Écoutez cette émission sur www.radiocapi.net. La Direction Générale des Impôts a annoncé dernièrement l'arrivée d'un lot disponible de plaques d'immatriculation à travers le pays. Plusieurs dossiers de requérants étaient restés longtemps en attente suite à la pénurie observée il y a quelques mois. Cependant, selon certains observateurs, l'offre étant toujours inférieure à la demande, cette situation serait loin de s'améliorer. Par ailleurs, d'autres s'inquiètent de la dépendance de la RDC dans la production de ces symboles distinctifs depuis près de 10 ans maintenant. Comment commentez-vous cette problématique? Nous en parlons demain. Prenez déjà rendez-vous avec vous. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Radio Capi.